Bonjour à tous, nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Checkpoint, le podcast où des passionnés partagent leur expertise pour élargir vos horizons sur différents sujets un mercredi sur deux à 8h. Et aujourd'hui, on accueille Christophe. Christophe, comment ça va?
Bonjour Lucas, ça va bien?
Ok, bah nickel. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler du monde de l'automobile et de son futur, et en fait de l'automobile en général. C'est ce que je viens de dire. Donc, est-ce que tu peux te présenter très légèrement?
Oui, alors j'ai 50 ans bientôt. Je suis dans la réparation automobile depuis une trentaine d'années avec divers emplois. Directeur commercial pour des grands groupes, carrossier peintre de métier. Et aujourd'hui, je gère mon entreprise depuis une dizaine d'années de réparation automobile.
Ok. Donc, justement, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu es légitime d'en parler, en fait, de ce qu'on va parler. Est-ce que tu peux un peu développer?
Alors oui, la voiture électrique, c'est une angoisse pour plein de gens. Nous vendons de la voiture d'occasion et nous rendons compte que les gens ont beaucoup de mal à se projeter sur l'avenir proche et lointain. Est-ce qu'ils doivent acheter une voiture électrique aujourd'hui? Est-ce qu'ils doivent attendre? Est-ce qu'ils doivent faire continuer à durer leur voiture? Le choix est très très compliqué.
Ok, c'est parfait, tu viens déjà d'entrer direct dans le sujet. Ma question est cool de source, en fait, c'est comment tu vois le monde de l'automobile dans 10 ans et si c'est possible, 20 ans après?
Alors, on a été projeté il y a quelques années en disant qu'on aurait le tout électrique d'ici 2030. Les constructeurs ont tendance à faire machine arrière. On se rend compte qu'on va avoir des grosses, grosses pénuries de composants. On n'a pas assez de mines. Les Chinois ont pris 75-80% du marché des mines en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc, ils ont le monopole aujourd'hui. Ils ont les méthodes pour le transformer. Ils sont énormément en avance sur nous, d'une vingtaine d'années aujourd'hui. On ne pourra pas électrifier tout le parc demain. C'est impossible. Aujourd'hui, on estime que si on prend la tendance des 20 dernières années, aujourd'hui, il y a 1,1 milliard d'automobiles. On devrait être en 2050 à 2 milliards d'automobiles. Et il sera impossible de passer 2 milliards d'automobiles en électrique.
Ouais, ok. C'est une très bonne réponse. C'est une réponse plutôt construite sur le fait que donc pour toi, le côté électrique, on va en venir un peu plus profondément après, mais électrique, c'est une bonne ou mauvaise chose, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est impossible demain de rendre tout à l'électrique.
Impossible. Par contre, c'est une bonne chose. Il y a des bonnes choses à la voiture électrique, je pense que c'est un complément. Aujourd'hui, si on arrive à avoir 700 millions de voitures électriques quand on sera à 2 milliards d'automobiles, ça sera parfait. Ça veut dire qu'on aura continué à pas augmenter notre empreinte carbone via l'automobile, mais on aura quand même pu arrêter un peu cette crise. Après, il y a plein d'idées. On propose de celui qui achète une voiture électrique demain, il doit pouvoir injecter de l'énergie verte dans le réseau. Donc, pourquoi pas voiture électrique égale panneau solaire à la maison. Ouais. On alimente, on donne de l'énergie verte.
Pour sa propre voiture, en fait, pour s'auto...
Pour le système, puisque l'aberration aujourd'hui, c'est que vous avez des voitures électriques, par exemple, en Allemagne. Donc, vous roulez avec une voiture électrique, mais vous n'êtes pas du tout écolo, parce que l'électricité est produite par des centrales à charbon qui sont énormément polluantes. Donc, aujourd'hui, l'indice carbone, il est pire qu'une voiture thermique. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas bêtement faire des voitures électriques parce qu'on pense qu'on fait du bien à la planète alors qu'on est en train de faire l'inverse. Pour produire de l'électricité, aujourd'hui, il faut remettre tout notre système en place et développer de plus en plus l'énergie verte.
Ok. Justement, tu allais parler un peu de la voiture électrique. C'est quoi pour toi les trois grandes qualités de la voiture électrique et ces trois grandes contraintes / limites?
Alors, pour moi, qui suis dans la réparation automobile, c'est quand même mon gagne-pain, les pannes sur les voitures.
Ouais.
Aujourd'hui, sur les voitures électriques, il n'y en aura quasiment plus. C'est 100 fois plus fiable qu'une voiture thermique. Je ne voudrais pas être le fabricant de bougies ou de turbos ou d'injecteurs demain, parce qu'il y en a de moins en moins.
Il n'y a plus rien, ouais. Il te reste quoi, donc la batterie, les roues?
Alors, des batteries, des roues, des triangles, des cardans, enfin une petite partie technique des pièces roulantes qui représente à peu près entre 10 et 15% du marché de la réparation. Mais on a 85% du marché de la réparation qui va à peu près disparaître. Enfin, demain, on est tout électrique, nous n'avons plus de raison d'exister. Moi, ça fait un moment que je me pose la question parce que, étant donné que j'ai fait de la réparation automobile, quand j'entends 2030, plus de voitures thermiques, 2035, tout est électrique, je me dis, aïe, ma profession est finie. Alors malheureusement ou heureusement, ça ne se passera pas comme ça. Il y aura toujours de la voiture thermique sur le marché parce qu'on ne pourra pas l'enlever, parce qu'on ne sera pas capable de fournir de la voiture électrique.
Il y en a toujours qui continuent d'arriver, des nouvelles voitures. Bon, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse tendance à faire de la voiture électrique, pour les gros constructeurs en tout cas, mais on a toujours des voitures thermiques qui sortent.
Alors le marché sur 2022 était de 12% de ventes de voitures électriques. Okay. On a eu un grand bond en 2023 où on est passé à 17% de voitures électriques, voire sur le dernier trimestre, on est à 25% de voitures électriques.
Ok.
Mais par la communication, la prime de l'État qui allait s'arrêter.
Bien sûr.
Aujourd'hui, le marché de l'électrique est plutôt en forte baisse.
Ok.
Et étant donné que les constructeurs, notamment les constructeurs allemands, s'entraînent de faire machine arrière, ça recrée de l'angoisse et du coup, les gens ne savent plus s'ils doivent acheter de l'électrique ou pas. Donc ça vient pénaliser le marché. Je pense que le problème de la voiture électrique, c'est de l'avoir présentée comme vous n'avez pas le choix. Et c'est pas vrai. C'est une alternative, une belle alternative. C'est fiable. Ça permet de faire des petits trajets. Ça permet de fiabiliser. Aujourd'hui, si vous prenez un diesel et que vous faites 10-15 km par jour, vous l'abîmez. Donc, pourquoi pas garder la voiture familiale, le gros 7 places, le monospace,
pour partir en
pour les week-ends, pour quand il y a les enfants, et dans la semaine, être un peu plus écolo et rouler avec la nouvelle R5 électrique qui vient de sortir sur Renault, qui est juste magnifique.
Et incroyable.
Tesla, qui est sur le marché depuis très très longtemps, qui a plus de fiabilité à prouver, qui est un super produit. Enfin, les voitures électriques, il y en a. Les constructeurs rentrent dans la danse. Volkswagen, avec sa gamme ID, a des super produits aussi. Donc, je pense que le produit électrique, il est bien, mais pas pour tout le monde.
Ok, donc pour toi, une des contraintes, si quand je le comprends comme ça, c'est que il y a un vrai problème, un vrai déficit d'autonomie. T'en as pas parlé, mais ça coule de source. La recharge qui est quand même, même si on tend vers des recharges à 30 minutes, une heure, ça sera jamais aussi rapide qu'un plein où ça prend 5 minutes s'il y a un peu de monde, quoi.
Alors oui, là, vous avez les constructeurs. Il y a des constructeurs, Lucas, qui commencent à s'améliorer. Aujourd'hui, on peut faire une charge de 10% à 90% en 18 minutes chez certains constructeurs.
Okay.
Donc, on s'améliore. On a un deuxième souci, c'est que le prix d'électricité sur l'autoroute, c'est quasi plus cher que de l'essence aujourd'hui.
Ah ouais?
Oui. Donc, par exemple, un plein de Tesla, sur une borne, ça va être 25-30 euros en moyenne. Si vous n'êtes pas sur une borne Tesla, donc sur une borne concurrente, comme il y en a tant, on arrive des fois à 70-80 euros le plein de voiture pour une autonomie de 400-450 km.
C'est aussi cher qu'une voiture qui consomme, quoi, qui consomme plutôt bien.
On est au-dessus d'un véhicule aujourd'hui hybride, thermique, qui va très très bien. Toyota avait lancé un protocole en disant pourquoi faire une voiture électrique sur 100 voitures pour descendre un indice carbone qui va être très faible, alors que si on fait 100 hybrides, on va baisser énormément l'indice carbone. Donc,
parce que ce qui consomme le plus dans la voiture thermique, c'est le démarrage et les premières vitesses pour les voitures.
Oui, il faut une voiture élancée à 110. Elle ne pollue plus, elle pollue énormément en ville avec le start and stop aujourd'hui qui est une arme d'anti-pollution, mais qui fait que la voiture, elle démarre 15-20 fois par jour.
Ouais.
Alors donc du coup, on relance sur consommation, voilà.
Donc le futur, en tout cas le futur proche, parce que tu nous as dit que, est-ce qu'il est vrai que l'électricité aujourd'hui n'est pas verte, pour toi l'alternative correcte dans les 10-15 prochaines années, peut-être plus, c'est plutôt l'hybride, c'est plutôt la voiture qui fait des deux.
Oui, je pense que l'hybride est un bon compromis à l'heure d'aujourd'hui. Et quand on aura su mettre en place des centrales nucléaires pour faire de l'énergie le plus verte possible et qu'on aura su adapter l'Europe à de l'énergie verte, ça sera plus facile de promouvoir de la voiture électrique. On a quand même un gros souci de matières premières pour la voiture électrique. On va pas pouvoir en faire pour tout le monde. Donc aujourd'hui, puis ça ne correspond pas à tout le monde. Si vous êtes un gros rouleur et que vous faites 40 ou 50 000 km par an, il faut garder un diesel. Et ça doit se justifier. Il y avait un document qui était sorti en disant aujourd'hui, une voiture électrique qui a 300 km d'autonomie, c'est très très bien. Et peut-être que vous pourriez louer une batterie secondaire qui se mettrait sur l'attelage ou sur le toit quand vous partez en vacances pour avoir 800 km d'autonomie et pas avoir besoin de charger 800 km en permanence tout le temps.
Ouais.
Un peu comme un téléphone portable. On le charge tous les soirs, alors qu'il n'y aurait pas forcément besoin. mais la peur de manquer, et la voiture va avoir le même phénomène que le téléphone portable. Ça veut dire qu'on va la brancher automatiquement en rentrant à la maison, même s'il reste de l'autonomie. Donc on va la charger quasiment tous les jours.
Ok. On parle beaucoup de l'électrique depuis tout à l'heure, parce que bah, évidemment, c'est en tout cas des grands constructeurs et des États le futur de l'automobile. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Donc cette question, je peux un peu... je connais une grosse alternative, peut-être qu'il y en a d'autres, mais l'hydrogène, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'hydrogène? Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est un peu fou.
Alors l'hydrogène, c'est quelque chose qui est hyper non polluant, hein, c'est zéro émission. Le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer de l'hydrogène, on consomme énormément d'énergie.
Ok.
Donc c'est encore une mauvaise boucle. Alors si on arrive à créer de l'hydrogène avec de l'énergie verte, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, il y a peu de véhicules à l'hydrogène. Il y a notamment Honda qui a sorti des véhicules hydrogène qui circulent aujourd'hui. Mmh. Ça commence à se développer plutôt dans l'Amérique du Nord. Mmh. Mais c'est encore loin d'être là. Mais je pense que l'électricité, c'est une bonne alternative. Lucas, tu roules à peu près combien de kilomètres par semaine?
Par semaine, je dois être à 300, 400. Je fais un plein par semaine, quoi, presque.
Donc, un plein par semaine, une voiture électrique chargée à la maison qui te coûterait 13 euros, qui aurait 400 km d'autonomie, elle est suffisante pour quelqu'un comme toi.
Ouais.
Et peut-être qu'une fois par an, quand tu as besoin ou quand tu pars en week-end, tu as besoin d'accéder à une voiture thermique et pas tous les jours. Donc, et à condition, Lucas, que tu charges ta voiture avec de l'énergie verte. Sinon
le problème reste le même.
Statistiquement, on dit que si on arrive à charger sa voiture électrique 100% avec de l'énergie verte, au bout de 40 000 km, on peut considérer qu'elle est zéro émission. Ça veut dire qu'on a absorbé la fabrication et tout ça.
Ouais. Ah oui, les retombées écologiques ont été
éliminées, à condition qu'on soit sûr que tu recharges ta voiture avec de l'énergie verte.
Ouais.
Ce qui est loin d'être le cas partout dans le monde. Le Canada est un gros pays d'énergie verte. Beaucoup de barrages, 85% de son électricité vient
des
barrages. Et le reste des panneaux solaires et éoliennes. Mmh. Ils revendent 10% de leur électricité aux États-Unis. Ouais. Donc il y a un Américain qui roule à l'énergie verte.
Un Américain
sur
10, ouais.
Okay. Peut-être trois autres qui roulent avec de l'électricité charbonnée. Donc il y en a un qui joue le jeu. Où il y a un intérêt de rouler en voiture électrique, pas les autres.
Est-ce que lui, il n'en a pas conscience, mais dans l'idée. Non. Dans l'idée. Et après, est-ce qu'aux États-Unis, le marché de l'électrique, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est vraiment le pays des grosses voitures, entre guillemets, le marché de l'électrique, il est bien ou pas là-bas?
Alors, il y avait un petit début, et là, c'est en train de se casser la figure. Ford avait sorti son gros F-150, qui est la voiture la plus vendue aux États-Unis, mm-hmm. en électrique. Ça a décollé un petit peu. Là, ça s'est écroulé. Le problème, c'est que tant qu'on a du pétrole, les gens préfèrent le confort de faire son plein. Au problème électrique d'attendre une voiture comme ça chargée à la maison, c'est 12-13 heures de charge. Donc
c'est plus long, ouais.
Enfin, c'est toujours pareil. On veut toujours avoir le réservoir électrique plein, donc on veut nos 600 km d'autonomie. Qu'on n'aura pas besoin dans la semaine, mais on va quand même la brancher 3-4 fois dans la semaine pour être sûr d'avoir le plein.
Et en plus, ce qui est un peu paradoxal, bah, par exemple avec le F-150 qu'ils ont sorti en électrique, c'est que les États-Unis ont ce besoin d'avoir des grosses voitures et ça concorde pas forcément avec la voiture électrique ou le modèle qui se vend le plus en France d'électrique, c'est la Renault Zoé, on est d'accord ? Donc, c'est une voiture petite parce que ça lui permet d'être plus légère, d'être peut-être plus maniable entre guillemets, donc elle consomme moins de fait, ce qui est un problème aux États-Unis, c'est que il y a aucune voiture trois portes par exemple, ça n'existe pas là-bas.
Clairement, il y avait un ingénieur qui disait pour fabriquer un gros SUV en batterie et lui donner, on va prendre le truc de Tesla là, le nouveau pick-up.
Ouais, c'est le modèle quoi déjà, modèle X
Non, c'est le comment il appelle, le Supertruck, non?
Le Cybertruck.
Le Cybertruck, pour qu'il ait 600 km d'autonomie, il y a trois fois plus de batterie que dans une Tesla normale. Donc, on est en train de puiser dans nos ressources de minerais qu'on n'a pas.
Ouais.
Donc, la France a dit on va ouvrir deux mines. Et puis, fin de compte, on se rend compte que pour faire un kilo de lithium, il faut, je crois, 100 000 litres d'eau. Donc, à un moment, c'est une boucle, on s'en sort pas.
Ouais. La prochaine question, on va retourner un peu dans le passé et on va aussi se baser sur aujourd'hui. C'est quoi pour toi la grosse différence entre les voitures d'aujourd'hui et les voitures d'avant? Par exemple, enfin c'est ma question est un peu floue, mais par exemple je prends la Twingo de 2020 et la Twingo, la première Twingo. C'est quoi les plus grosses diffs?
Alors moi je dirais que la sécurité, on a bien évolué. Mmh. On a des freinages d'urgence intelligents, on a des caméras partout. En sécurité, les voitures aujourd'hui sont... Enfin, à l'époque, quand la limitation de vitesse est sortie, c'est en 1974, les premières limitations de vitesse de mémoire. Okay. On avait mis, par exemple, 130 km/h, en sachant que si tu avais un accident à 130 km/h, t'étais mort.
Ah bah, bien sûr.
Qu'à 50 km/h, de toute façon, dans les vieilles voitures d'il y a 40 ans, 50 ans, t'étais mort. Mmh, et même ouais. Pas la ceinture. Aujourd'hui, dans les voitures d'aujourd'hui, ça veut dire qu'elles sont adaptées aux vitesses qu'on préconise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une voiture à 130 va tellement bien freiner que l'impact sera moins violent à l'arrivée. Et qu'en plus, tous ces systèmes de sécurité font que ta possibilité de rester en vie et d'être quasiment moins blessé ou pas blessé, elle est là aujourd'hui qu'elle n'était pas il y a 40 ans. Donc déjà, le grand bond en avant, c'est la sécurité. Mmh. Après, malheureusement, qui dit sécurité dit électronique dans tous les sens, donc dit fiabilité. Aujourd'hui, avant, on faisait un moteur, on prenait un gros 2 litres, un 2 litres 5, on lui faisait 90 chevaux, c'était un moteur de tracteur, c'était incassable.
Ouais.
Vous partiez pour 350, 400 000 km, ça tombait pas en panne, c'était des gros injecteurs, ça débitait fort, ça pouvait tout accepter. Aujourd'hui, normes écologiques, on baisse les injecteurs, on essaye de faire des moteurs très 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 petits, mais qui sortent suffisamment de puissance pour que ça soit agréable, avec des tout petits injecteurs et des machins. Du coup, on a fragilisé l'automobile d'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, l'automobile d'aujourd'hui n'est pas fiable, à part la voiture électrique.
À part la voiture électrique et la voiture la plus fiable actuellement sur le marché.
Oui.
On a peut-être encore quelques exemples qui sortent un peu du lot, mais c'est en tout cas la majorité, c'est ça?
Là, les voitures électriques à 99%, c'est ce qu'il y a de plus fiable aujourd'hui.
Ouais.
On verra rarement, très très rarement, une voiture en panne sur l'autoroute électrique. Ou en panne d'électricité.
Elle sera en panne d'électricité, quoi, au pire.
Voilà. Mais c'est la seule panne qui peut vous arriver en voiture électrique, malheureusement, c'est que vous manquez d'électricité. Mais c'est très 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 fiable. C'est un vraiment bon produit aujourd'hui. Moi, qui suis réparateur automobile, quand j'ai vu l'électricité arriver, je dis, on est foutu, on n'aura plus de travail. Et je pense qu'on est beaucoup de professionnels de réparation automobile à cette dip. Ça va être la misère. Après, moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. À 17 ans, le premier Espace 1 était sorti.
Ouais.
Et Renault livrait l'aile de l'Espace, déjà de la couleur de la voiture, et elle était juste à coller. Il n'y avait plus de boulons. N'importe qui pouvait le faire. Et là, j'entendais les anciens qui étaient avec moi, qui me formaient, qui me disaient « C'est la fin de l'automobile, c'est la fin de l'automobile, dans 10 ans, on n'existe plus. » Ça fait plus de 30 ans, la réparation automobile n'a pas tant évolué que ça, donc je pense que le marché de l'automobile, pour mes confrères et tout, il ne faut pas s'inquiéter, le business est encore là, il sera encore là longtemps,
ouais.
Parce que de toute façon, on ne sera pas capable de produire des voitures électriques pour tout le monde, et en plus, il n'y a pas d'intérêt.
Et il y a une partie du business, entre guillemets, qui, enfin, d'après moi, qui ne disparaîtra pas. En tous les cas, bah, c'est le côté carrosserie. Parce que les gens continuent, enfin, avec, comme tu l'as dit, il y a plus de sécurité, des freinages d'urgence. Mais il y aura toujours des gens qui se rentreront dedans. Il y aura toujours des accidents. Malheureusement, mais il y aura toujours des accidents. Donc, t'auras, entre guillemets, toujours peut-être du travail du côté carrosserie. Alors que le côté mécanique va être plus compliqué.
Alors,
en tout cas.
Oui, le coût moyen de la carrosserie a explosé. Les assurances aujourd'hui privilégient la pièce de réemploi, la pièce d'occasion, entre guillemets. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils nous poussent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un optique, à l'époque, ça valait 200 francs, 300 francs. Aujourd'hui, un phare à LED, un peu équipé, c'est 1000 euros hors taxe.
Attends, 200, 300 francs, ça fait combien?
Alors, 200, 300 francs, ça serait l'équivalent de entre 30 et 40 euros.
D'accord, d'accord.
Entre 30 et 40 euros à l'époque, un phare. Aujourd'hui, un phare, c'est 900, 1000 euros, 1500 euros, 1700 euros. Un phare complet sur une DS3 juste à LED avec le balastre, l'ampoule et les deux, trois composants électroniques, c'est 2000 euros. 2000 euros, 13 000 francs. C'était le salaire d'un gars d'un mois à l'époque qui était plutôt bien payé.
Ouais. Bah, toujours aujourd'hui. Hein, avec...
Ouais, même aujourd'hui, 2000 euros, c'est déjà un bon salaire.
2000 euros, c'est pas mal.
Bah, 2000 euros, aujourd'hui, avec 2000 euros, on peut se payer un phare de DS3.
C'est pas mal. Ok. C'est pas mal.
Donc, le coût de sinistre augmente. Mm-hmm. Et en plus, la voiture électrique nous impose des nouveaux concepts, des nouvelles formations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut consigner une voiture électrique quand vous l'avez dans l'atelier. Il faut la mettre dans une zone de sécurité. Ça veut dire qu'il faut la désactiver de toute possibilité d'électrification.
Ok.
Ça veut dire qu'il y a des disjoncteurs, des fusibles dans la voiture. Et là, il y a une procédure avec des gants, un casque, et on va désactiver tous ces systèmes-là dans la voiture pour pouvoir travailler dessus sans danger.
Ok. C'est... Donc la formation, tous tes carrossiers l'ont fait, tu l'as fait aussi ?
Alors non, moi je ne l'ai pas faite, puisque j'ai le privilège ou le désavantage d'être le chef d'entreprise, donc j'ai plein d'autres choses à gérer. Par contre, oui, j'ai un carrossier peintre qui a fait la formation et un mécanicien, parce que aussi dans la réparation automobile aujourd'hui, selon les organes qu'on peut toucher roulant d'une voiture électrique, on peut être obligé de déconsigner un véhicule.
Et bah, même pour des plaquettes de frein par exemple ?
Alors non, pour des plaquettes okay. de frein, il faut quand même que le mécano ait un agrément, mais c'est l'agrément de base pour pouvoir faire de l'entretien des pneus et des machins. D'accord. C'est-à-dire qu'il est une notion qui travaille sur une voiture électrique et qu'il ne faut pas apporter un élément sur les câbles haute densité qui sont dans le véhicule.
Ok, ouais, c'est le niveau.
C'est plus c'est de le niveau 1. Et là, pour pouvoir travailler dessus en carrosserie, on est plutôt sur le niveau 2, voire...
Ok, ok. Bah, nickel. En tout cas, c'est une réponse plutôt claire, qui est plutôt intéressante parce que, en fait, il y a beaucoup, nous, on voit que le côté, quand on est à l'extérieur, le côté, il y a un accident, faut réparer, mais c'est vrai que c'est même logique quand tu le dis, en fait, faut éteindre tout ce qui peut être potentiellement allumé, tout ce qui peut être dangereux sur une voiture électrique, où t'as moins à te soucier sur une voiture, thermique, même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'électricité. Voilà, donc j'ai un peu, je sais pas pourquoi, j'ai résumé plutôt ce que tu m'as dit. Ça va me faire passer à la prochaine question. Donc là, c'est la question de l'IA. Donc une question que je pose à chaque fois dans chaque épisode de Checkpoint. Donc je vais lire la question parce qu'elle est toujours un peu plus compliquée que mes questions. Donc c'est, avec l'avènement des voitures autonomes, quelles compétences supplémentaires pensez-vous devoir acquérir pour maintenir ces véhicules en bon état de fonctionnement ? Donc là, de mon côté en tout cas, je me suis un peu renseigné quand même sur les voitures autonomes. C'est toujours interdit en France sous un certain seuil, alors que dans certains pays, par contre, aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup plus de liberté.
Alors, je vais essayer de pas te dire de bêtises, Lucas, mais en France, on a accepté le niveau 1.
Ok. Oui.
Ça veut dire, la voiture peut vous corriger la trajectoire, elle peut vous ramener si vous dépassez une ligne. Voilà, c'est le niveau 1 chez nous. On n'ira pas au-delà pour l'instant. Aux États-Unis, ils sont au niveau 3, je crois, et ça va jusqu'au niveau 5. Aux États-Unis, ils sont jusqu'au niveau 3 ou 4, et ça veut dire qu'ils sont quasiment en autonomie. La voiture pourra quasiment rouler en autonomie. Mais il y a quand même des réglementations. C'est que le chauffeur est obligé de regarder la route. On n'est pas encore dans un salon derrière la voiture, elle roule toute seule.
Ouais.
Mais cette technologie demande énormément de capteurs et beaucoup, beaucoup de contrôle. Alors, on est plutôt plus sur du mécanicien, mais sur des softwares où il va falloir des super PC et pouvoir faire des diags poussés. Ça veut dire qu'on va être obligé de se brancher sur la voiture, comme on le fait déjà aujourd'hui pour faire des lectures de code défaut.
Mm-hmm.
On va se brancher sur la voiture et là, c'est l'ordinateur qui contrôlera chaque capteur, que chaque capteur est capable d'avoir sa lecture et sa mission et qui va bien fonctionner quand on va passer en conduite autonome. Mmh. Alors, on aura des capteurs à changer. Je pense que ça ne demandera pas trop de compétences et à reconfigurer. Aujourd'hui, on est sur des systèmes complètement automatiques.
Mmh.
Aujourd'hui, pour te donner un exemple, quand on soude des tôles, à l'époque, on prenait la densité de la tôle, l'épaisseur de la tôle, combien on voulait en souder. Et là, on réglait notre appareil et on essayait de faire notre point de soudure.
Ouais.
Aujourd'hui, on a des appareils complètement automatiques. Ça veut dire qu'il le prend lui-même. Quand vous serrez la pince, il sait l'épaisseur de la tôle, il sait combien il y a de tôle, il sait quelle densité d'acier c'est. Et du coup, il vous fait le point de soudure comme il doit être fait. Et là, on est optimum.
Mmh.
Donc, la conduite autonome ne va pas engendrer plus de travail ou moins de travail. Ça va être surtout des ordinateurs qui vont le faire pour nous.
Comme
voir une IA.
Voir
peut-être
une IA.
Que ton IA, elle sait déjà que c'est pour elle.
ok, bah, c'est une réponse plutôt correcte. Non, pas. C'est pas ce que je voulais dire, bien sûr, mais
Est-ce que j'ai été assez clair?
Oui, t'as été assez clair. T'as été assez clair. Alors que, est-ce que t'as déjà reçu une voiture? T'as déjà reçu une voiture qui, certes, peut être autonome. Oui, t'as déjà eu des Tesla, en fait. T'as déjà eu des Tesla.
Alors oui. Même si ça devient techniquement compliqué de les réparer parce que Tesla verrouille bien le système des pièces. Donc on évite de les prendre aujourd'hui parce que on a du mal à se fournir correctement en pièces pour la réparation éventuelle. Alors c'est souvent des Tesla, c'est souvent des pare-brises hein, aujourd'hui. Et même un pare-brise, pour avoir un pare-brise chez Tesla, c'est compliqué. Hein.
Ok.
Donc alors j'ose pas imaginer si demain il nous faut un composant électronique. Il y a un marché qui s'ouvre des composants électroniques de réemploi, de réutilisation. Qui arrive, ça devrait se mettre en place, ça commence à se préparer. D'ici 4-5 ans, je pense qu'on sera capable de commander un module, un machin, en accessoiriste aujourd'hui, ça veut dire sur des boîtes concurrentes. Valeo fabrique commence à fabriquer des composants de deuxième monte, de réparation. Donc, je pense que dans un avenir assez proche, entre 3 et 5 ans, on pourra être capable de réparer des voitures électriques, à condition que les constructeurs nous donnent les informations et qu'on ait accès au software pour réparer ces voitures.
Et tu penses que ce sera les mêmes entreprises ou pas? Ou ce sera un nouveau marché pour des nouvelles boîtes? Ou ce sera toujours, alors, par exemple, toi ton plus gros fournisseur, c'est Ménil Accessoires, qui t'offre des pièces de voitures de plein de marques différentes. Est-ce que tu penses que ce sera eux qui garderont le monopole, on va dire, ou des nouvelles boîtes, des nouveaux trucs?
Alors, aujourd'hui, les distributeurs automobiles, il y a l'AD, il y a le groupe Ménil Accessoires, Alliance, hein, exactement, groupe auto. Tous ces groupes-là ont besoin d'être là demain et la part de marché qui va nous échapper, de réparation, le kit distribution, les bougies de préchauffage, enfin les filtres, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus d'huile.
Ouais.
Ça aide quand même à lutter contre la pollution. Malheureusement, ça nous fait un vrai manque à gagner aussi.
Oui.
Donc du coup, on va tous être obligés de s'y mettre. On n'a pas le choix si on veut être là demain. Il va falloir pouvoir faire de l'intervention électrique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre ce que je connais, Alliance Industrie, par exemple, Alliance Groupe Auto, a mis un système en place de hotline où on branche un boîtier sur la voiture et eux achètent l'accès au calculateur, à toutes les grosses interventions qu'on est normalement obligé de passer par le constructeur aujourd'hui. Allez, on y a accès. On est capable de faire comme un constructeur chez nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on... Alors, l'informatique, on connecte la voiture sur le réseau. Le gars prend à distance la main et fait la configuration parce que lui, il a payé les licences qui sont très, très lourdes chez le constructeur pour pouvoir y avoir accès. Mais du coup, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, je pourrais pas acheter juste la licence Renault. Elle me coûterait dans les 5 ou 6 000 euros à l'année.
Ouais.
Ces gens-là, c'est des groupes, ils achètent toutes les licences de tous les constructeurs et ils vous les revendent à la prestation.
Ouais, ils les louent, en fait. C'est comme s'ils
les louent. Ils nous les louent. J'ai besoin de reparamétrer un calculateur d'airbag aujourd'hui. Là, je vous prends un exemple, c'est cette semaine. J'ai un calculateur d'airbag à paramétrer. J'appelle chez Ford pour savoir s'ils peuvent me donner un rendez-vous. Je viens de leur acheter à peu près 8000 euros de pièces pour ce véhicule que j'ai réparé.
Ouais.
Et là, on me dit le 16 mai, monsieur. Et là, je dis, mais mon client va pas attendre le 16 mai pour récupérer son camion.
C'est clair.
Et là, ils me disent, je peux pas faire mieux parce que pénurie de salariés, pénurie de tout. Donc, je peux pas faire mieux que le 16 mai. Et là, je suis content d'avoir ma hotline qui va me reparamétrer mon boîtier d'airbag à distance. Je me déplace pas. Et en plus, je fais des économies.
Ouais, ok. Donc, double bénéf.
Double bénéf. Et puis, ça va nous permettre à nous, les réparateurs, par exemple, je l'ai pas dit au début de notre
podcast,
mais je suis Top Garage. Moi, je fais partie du réseau Top Garage. Et ben, ça va permettre au réseau Top Garage, mais à d'autres réseaux, il y en a plein, les garages AD, les carrosseries AD. Ce système-là va permettre à tous ces gens-là aussi de rester en vie demain et de pouvoir continuer à travailler sur les voitures modernes.
Parce que, justement, t'as pas vraiment expliqué. C'est quoi la différence, la réelle différence entre guillemets entre un concessionnaire Renault et ton garage au-delà du fait que oui c'est pour Renault en gros.
Alors nous on est spécialiste multimarque, on n'a pas la prétention d'une concession, on n'a pas les charges d'une concession. Les concessions, quand vous rentrez dans un concessionnaire, il y a tellement de gens non productifs qu'à un moment faut les payer. Il y a des secrétaires partout, il y a des gars à l'accueil partout. Nous, on est plutôt, vous voyez, moi, je suis à l'accueil toute la journée, mais je suis aussi carrossier peintre. Donc, on n'est pas que non productif. ces concessionnaires-là, forcément, leurs prix sont déjà 30%, 35% au-dessus de nous, mais parce qu'ils ont des charges que nous n'avons pas, des charges supplémentaires que nous n'avons pas. Mmh. Et par contre, ils ont le monopole, c'est-à-dire que le constructeur a été condamné plusieurs fois, plusieurs constructeurs ont été condamnés plusieurs fois parce qu'ils faisaient de la rétention d'informations.
C'est-à-dire ?
Ben, ça veut dire qu'ils sortent une nouvelle voiture, on va prendre la R5 électrique qui arrive bientôt. Mmh. Aujourd'hui, Renault, quand il sort un nouveau véhicule, il a l'obligation, ça s'appelle la loi de la libre concurrence, de nous fournir les softwares pour qu'on puisse intervenir sur ces voitures.
Ok.
Sauf que Renault traîne 2, 3 ans, 4 ans. Pour pas qu'on puisse accéder à ces voitures. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le nouveau système qui se met en place, on peut... on a des plateformes qui achètent ces licences, qui sont très très chères, que le constructeur vend cher, parce qu'il a obligation de les fournir, mais il n'a pas d'obligation de prix.
Oui, bien sûr.
Donc, le constructeur vend très cher ses softwares, et aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir y accéder grâce à des plateformes.
Ok. On va passer aux questions, on va dire, des gens, mais le problème, c'est que j'ai oublié de les poser sur Instagram, mais j'ai quand même demandé à quelques personnes des questions, et j'en ai eu une, enfin j'en ai plusieurs, mais je vais t'en choisir une ou deux. Alors, là, il y a une question très intéressante. Le développement des voitures LOA, donc location avec option d'achat, qui est en plein développement, est-ce que ça change un peu ta vision du métier ?
Alors, je dirais que c'est plus en plein développement, ça l'a été il y a 5-6 ans. 7 ouais. ans. D'ailleurs, quand on regardait une pub à la télé, on parlait plus d'un prix de voiture, mais d'un loyer.
Oui. Ouais, ouais.
Aujourd'hui, on a le même phénomène avec la voiture électrique. On ne voit plus que des voitures électriques à la télé. On a l'impression que la voiture thermique n'existe plus. Ouais. Et on voit toujours que des loyers. Alors, la LOA, c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut pas d'embêtement, même si la voiture électrique tue le truc, parce que comme c'est hyper fiable, quel est l'intérêt de payer une voiture tous les mois, tous les ans, même si vous avez le droit de la renouveler et de prendre le nouveau modèle tous les 2-3 ans. Il faut être très très riche. Aujourd'hui, il vaut mieux acheter sa voiture. J'ai un copain, je vais vous prendre un exemple, j'ai un copain qui me dit, Christophe, j'ai pris la dernière Clio, mmh. hein, elle me coûte 150 euros par mois sur 5 ans et 60 000 kilomètres. Et là, je lui dis, mais si tu l'achètes, cette voiture, elle vaut 11 000 euros de prix de départ, tu as pris l'entrée de gamme. Je dis là, grosso modo, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais sur 5 ans, il allait payer quasiment 9 000 euros de loyer
ouais.
pour une voiture qui n'est pas à lui, qu'il fallait rendre à la fin. Et en plus, à la fin de la LOA, il faut la rendre comme on vous l'a donnée. Ça veut dire que chaque rayure, chaque bosse, les pneus doivent être en bon état, pas de rayures sur les jantes. Ça veut dire que la voiture, il faut la rendre neuve.
Après 5 ans, compliqué.
Compliqué. Et en plus, quand on calcule, s'il aurait pris un petit crédit de 180 euros par mois, mmh. grosso modo, en 5 ans, il aurait payé sa voiture. Et une voiture à 60 000 km, elle est loin d'être usée. Donc, ça veut dire qu'il aurait payé son crédit sur 5 ans et qu'il aurait peut-être profité d'une voiture 15 ans en tout. Donc, mmh. 10 ans de plus sans loyer. Donc, la LOA, ça a explosé il y a 5-6 ans parce que c'était la nouvelle manière de vendre de la voiture.
C'était un peu une mode, en fait.
Bah, c'était une mode, c'était génial. T'as pas besoin d'apport, t'arrives, tu prends une bagnole. Alors... attention, je prends un truc entrée de gamme 150 euros, pour les plus chers 600 euros par mois, sauf que j'ai versé 600 euros pendant 5 ans, et la bagnole, elle n'est pas à moi. Et en plus, il faut que je la rende neuve. Alors, je pense que c'est un vrai calcul. Autant le leasing, le LOA, c'est intéressant pour un professionnel, parce que ça passe dans ses charges, et ça lui permet de renouveler, parce que c'est des gros rouleurs en général. Le particulier, par exemple, je prends toi, Lucas, qui me dit que tu fais à peu près 300 km par semaine. Donc, on va dire que tu fais, allez, 1200 km, tu vas faire 15, 16 000 km par an. Mmh. Dans 5 ans, tu auras fait à peine 70 000 km. Tu devrais payer ta voiture aujourd'hui 180 ou 150 euros par mois, autant l'acheter. Parce mmh. que quand tu auras 70 000 km dans 5 ans, tu arrêtes de la payer et elle est à toi, cette voiture. Et en plus, elle a une vraie valeur. Ça veut dire que tu veux renouveler le modèle, tu as un apport pour un nouveau modèle. Donc, je pense que le LOA, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir les moyens de payer toute sa vie une voiture tous les mois.
Donc, c'est peut-être rentable pour les très, très gros rouleurs.
Après, aujourd'hui... la personne qui a des moyens, faites un crédit de 7 ans sur une Toyota, qui est quand même un des constructeurs les plus fiables du marché. Achetez une voiture Toyota 7 ans à crédit, une Toyota, vous allez la garder 20 ans.
Oui, clairement, ouais.
Donc, pourquoi payer 20 ans de loyer, plus que vous pouvez acheter une voiture, et en 7 ans, vous l'avez amortie, et vous en profitez encore une dizaine, une quinzaine d'années. Et si vous voulez le nouveau modèle, bah, votre voiture, elle a toujours une valeur marché. Alors que là, vos loyers sont complètement perdus. Et vous n'avez rien. Et en plus, avec un peu de bol, vous avez une facture à la sortie de 2000, 3000 euros, comme j'ai pu voir, parce que vous avez 4 rayures sur la voiture, 4 pneus à changer, une jante rayée où là, ils vont pas faire de peinture parce que c'est le constructeur, ils vont remettre une jante neuve. Donc, ça peut vite vous coûter très, très cher. J'ai déjà racheté des voitures où les gens avaient une valeur de reprise du constructeur à 11 000 euros et moi, je leur achetais la voiture de 9 000 euros. Parce que la remise en état chiffrée par le constructeur dépassait les 4-5 000 euros. Donc, les gens préféraient me vendre la voiture 9 000 euros et eux l'acheter 11 000 euros, donc perdre 2 000 euros, qu'en perdre 5 au final.
Ouais.
Donc, attention sur le leasing, c'est pas fait pour tout le monde.
Ok. J'ai une autre question sympa qui m'a été envoyée. Que faire des véhicules critères 5, 4 et 3 en termes de recyclage?
Alors aujourd'hui, nous avons des plateformes, là, la casse dans le temps où le gars faisait la vidange dans le jardin, c'est quasiment révolu aujourd'hui. Il y a eu des critères, des normes. Les casses aujourd'hui ont obligation de retraiter 95-99% du véhicule. On est quand même loin de... On les broyait, on les mettait dans un champ. Aujourd'hui, elles sont purifiées de leurs huiles, de leur carburant. Tout est retransformé. On fait du recyclage. Donc, ça veut dire que toute la pièce de carrosserie passe en deuxième monde sur le marché de la réparation. Les moteurs, l'aluminium est revendu au poids pour être fondu. On a quand même aujourd'hui bien retraité la voiture. Donc, ces voitures-là, quand elles partent pour leur dernier voyage, eh ben, elles sont retraitées quand même correctement. Ce qui est un comble, c'est qu'il vaut mieux les retraiter chez nous et les garder chez nous que les envoyer à l'export où elles vont finir en Afrique ou je ne sais où et continuer à rouler. Alors, si elles polluent chez nous, elles polluent ailleurs aussi. Hein.
Ouais, ok. Ce qui est plutôt logique. Et donc, en vrai, les voitures aujourd'hui, critères 5, 4, 3, c'est des voitures qui ont plus de 20 ans, à peu près. Ouais. Ou est-ce qu'il y a des voitures... C'est quoi le maximum qu'on peut avoir aujourd'hui? C'est critère 2 sur les nouvelles voitures, même pas?
Alors, ça dépend de la motorisation. Hein. Si vous prenez un bon V6 diesel, vous allez avoir encore un taux de pollution énorme et peut-être un critère 3 ou 4. Mmh. Attention, avec la taxe de l'État aujourd'hui, pour vous donner un exemple, vous prenez le dernier Ford Ranger Raptor.
Ouais.
C'est un V6 essence. Entre guillemets, catalysé, donc l'essence ne pollue pas, entre guillemets.
Oui,
il a quand même la taxe de 50 000 euros de l'État
okay.
pour pollution carbone. Donc, ça veut dire que si vous voulez acheter aujourd'hui un Ranger Raptor, il vous en coûtera 70 000 euros plus 50 000 euros plus la carte grise. Donc, vous arrivez sur des véhicules qui valent entre 130 et 140 000 euros, donc qui ne sont plus accessibles.
Autant les vivre aux États-Unis et pas péter.
Donc ça, c'est pareil, ces moteurs-là ont tendance à disparaître par les taxes.
Ok, ouais. Donc les grosses voitures disparaissent à cause, mais est-ce que c'est pour la bonne cause en soi de... Bah justement de...
Alors,
de
pour, rendre ses pour vous savez, quelqu'un qui achète un V8 Ferrari ou un V12, il fait 300 km par an, il fait 1000 km par an, c'est pas lui qui pollue. Ces gens-là, ils roulent pas tous les jours avec leur gros V8 ou leur gros V12. Ouais. C'est des gens, c'est des voitures plaisir. On est en train de tuer quand même le monde de la voiture plaisir avec ces taxes, parce que c'est pas les gros pollueurs. Le gros pollueur, c'est le gars qui démarre son gasoil le matin et qui fait 150 bornes pour aller au boulot, aller-retour, parce qu'il a pas le choix, parce qu'il a acheté une maison à la campagne, parce qu'il avait pas les moyens d'accéder à la propriété près de son emploi.
Mm-hmm.
Donc c'est plutôt ça le fléau aujourd'hui, c'est il a pas les transports en commun qui vont bien, parce que on n'a pas su développer aussi des transports en commun corrects pour la grande banlieue. Donc moralité, le gars qui prend tous les matins son diesel pour faire 150 bornes par jour, lui, il faut peut-être le passer à la voiture électrique et c'est urgent.
Ouais, clairement.
Alors, l'État a essayé de faire des aides pour ces gens-là.
Il y a un bonus, ce que j'allais te dire.
Oui, puis ils l'ont fait, mais aujourd'hui, ça demande. Il y a tellement de demandes. Ils avaient lancé un protocole avec une aide, les voitures à 2000 euros électriques. Ça veut dire qu'on partait sur une Dacia, là. Mm-hmm. Et entre l'aide, les aides diverses et variées des communes, des villes, la personne devait payer 2000 euros. Ils avaient financé, je crois, 10 000 voitures. En deux jours, il y avait 70 000 demandes.
Ouais.
Donc.
Impossible.
Oui, là, ils avaient relancé un truc sur 2023 avec voiture électrique, vous pouviez acheter une voiture électrique avec une aide de l'État qui faisait que vous aviez un loyer maximum de 150 euros par mois. C'était une très bonne initiative. Mais c'est pareil.
C'est comme le LOA, en fait, ouais.
Oui, mais sauf que là, c'était financé à 80% par l'État.
Ce qui peut être intéressant. Pour 30 euros, tu peux prendre le risque.
Une voiture électrique aujourd'hui, une Tesla en location, en leasing par mois, c'est quasiment 1000 euros aujourd'hui.
Ah ouais?
Oui. Okay. Alors que si l'État vous prend 800 euros et qu'il vous arrête 200 euros, ça peut être sympa.
Ouais, clairement. Pour une Tesla, ça peut
donner envie de rouler à l'électrique, c'est clair.
Et j'ai une dernière question des gens, et c'est toujours la même personne. Merci, Arthur. Donc là, je vais un peu reformuler sa question, mais ton garage se situe dans une zone rurale. Donc ton garage se situe à Sainte-Geneviève dans le 60. Voilà, il s'appelle Top Garage Swing Auto.
Merci pour la pub.
T'as pas besoin de ma pub, ça c'est sûr, mais tu t'es dans une zone rurale. Et est-ce qu'il y a des grandes différences entre un garagiste dans une zone urbaine, par exemple, je prends un exemple d'une ville, je sais pas, Gennevilliers, et ton garage?
Alors oui, bien sûr, il y a des grandes différences. Aujourd'hui, le mètre carré dans l'Oise permet d'avoir des belles structures, déjà.
Déjà.
Moi, j'ai à peu près 1200 mètres carrés couverts sur 3000 mètres de terrain, pour une moyenne de loyer de 5000 euros à 5200 euros hors taxe de loyer. Le même loyer sur Gennevilliers ou Asnières-sur-Seine ou dans la banlieue 92 ou 95, une surface comme ça, c'est pas accessible.
Bien sûr.
Ou à condition d'avoir 15 ou 16 000 euros ou 17 000 euros de loyer par mois. C'est trois fois plus cher. Donc forcément, nous, dans notre campagne, on se permet d'avoir des beaux espaces, donc du confort pour travailler. Il y a moins de population au mètre carré, donc moins de clients. Par contre, moins de concurrence aussi. Du coup, les deux se valent. Je suis tellement content de travailler à la campagne et de pouvoir profiter du grand air.
Ouais, bien sûr. Même si t'es quand même dans un monde, enfin, où t'as un grand parking et plein de voitures qui démarrent
tout
le temps.
Voilà, je suis capable de répondre à la demande. Je suis pas capable de stocker les gens, la voiture des gens qui sont en panne. J'ai un confort de travail qu'ils n'ont pas dans ces grandes villes.
Bien sûr.
J'ai des copains qui ont des garages dans des villes. Quand il y a un client qui arrive sans rendez-vous, c'est la misère. Vous savez pas où mettre la voiture. Il faut essayer de trouver une place dans la rue. Vous tournez pendant un quart d'heure.
Ouais.
Vous dites au client, essayez de garer votre voiture. Enfin, si le gars il est en panne, il est en panne. Quand il y a une dépanneuse qui arrive dans un plein centre-ville pour vous déposer une bagnole, ça devient l'enfer. Vous bloquez la rue. Chez moi, il a largement la place de rentrer, de déposer la voiture. On peut les garder un peu. Non, c'est aujourd'hui un garage en centre-ville, c'est l'enfer. D'ailleurs, toutes les villes poussent pour que les garages automobiles, la réparation, notamment la carrosserie peinture, nous n'avons plus le droit d'installer une cabine de peinture en centre-ville aujourd'hui. Vous êtes obligé d'aller dans les zones. Ça veut dire que si la cabine est existante aujourd'hui, vous rachetez un garage, vous récupérez un garage qui a déjà une cabine de peinture dans un centre-ville, vous avez le droit de la maintenir.
Mais pas le droit d'en créer une nouvelle.
Aujourd'hui, vous ne créerez jamais un garage dans un centre-ville. On vous obligera à aller dans la zone industrielle de la ville.
Ok. Ouais. En même temps, il y a quand même une question d'odeur et de pollution aussi, non ?
Ouais, de pollution, oui.
Alors,
on pourrait parler longtemps de la pollution et de la peinture à l'eau qui est arrivée à peu près dans l'automobile il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, hein, que ça a été obligatoire pour l'automobile dans la réparation de passer à la peinture à l'eau plutôt qu'à la partie solvantée. Oui, ça pollue moins. Les vernis sont encore au solvant. Les réparations, on utilise des mastiques. La pollution mondiale, c'est simple, on dit que la fabrication de voitures neuves, c'est 8% de la pollution mondiale.
Mm-hmm.
L'industrie du bois, c'est 47%. C'est une catastrophe.
Ouais.
Et la réparation automobile, c'est 7% aujourd'hui.
Okay.
De la pollution mondiale.
De la pollution mondiale ou de l'automobile ?
Mondiale.
Ok.
Mondiale. Si on ferait un grand camembert, l'automobile, entre la réparation et la construction, on pèse à peu près pour 17%.
Ok. Ce qui est énorme, en fait. Mais ça reste...
Tout le monde a une voiture aujourd'hui.
Tout le monde a une voiture.
Tout le monde a un meuble aussi dans sa salle à manger lui, pollue à 47%.
Et pas qu'un seul, en plus. Donc, ouais.
L'industrie du bois est une catastrophe parce qu'ils utilisent énormément de produits solvantés et tout ça. Et tous les meubles, les tables, les chaises, c'est de la pollution. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous faites de la pollution.
Oui, c'est ça. Malheureusement, dans tous les cas, quasiment... voilà, on pollue. Et c'est vrai que le monde de l'automobile, c'est souvent, c'est parce que c'est très facile de s'en prendre à lui parce que il est dans notre quotidien. mais on s'en prend beaucoup moins, bah, comme tu l'as dit, à l'industrie du bois, aux avions. On s'en prend beaucoup moins à ces mondes-là, même si aujourd'hui ça commence à changer. Mais le monde de l'automobile, même si ça pollue, hein, c'est un fait. Et souvent le vilain petit canard de la fête, quoi.
Bah, c'est tellement plus facile de taper sur l'automobiliste parce qu'il est nombreux. Donc, si je prends 1 € à chaque automobiliste, ça me rapportera beaucoup plus que si je prends 10 € à chaque passager d'un avion.
Ouais,
Donc,
je suis pas allé, ouais.
aujourd'hui, l'automobiliste, c'est bien de taper dessus. Et là, par exemple, la loi de 2030-2035, plus de voitures thermiques, a pas été pris avec des constructeurs automobiles. On n'a pas concerté les constructeurs automobiles, notamment les plus grands, comme le groupe Volkswagen, hein, qui comprend plusieurs marques, le groupe Toyota, qui est juste le premier constructeur du monde, n'ont pas été concertés. On a juste décidé qu'on allait faire de la voiture électrique, sans se poser la question, est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on allait, est-ce que, qu'est-ce que ça allait polluer et tout? Où on en était? Aujourd'hui, on se rend compte, allez, on a voté les lois, que les Chinois maîtrisent 75-80% du marché. Des batteries, des composants et des mines. Pire que ça, c'est qu'ils ont pris main basse sur les mines un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on se dit, bon, eh ben, on va continuer à enrichir la Chine.
Parce que c'est une loi de l'Union européenne, c'est pas qu'une loi française.
Exactement, c'est l'Europe, mais l'Europe.
Finira. C'est ça que tu dirais.
Je
Peut-être
dirais,
pas comme ça,
je
mais.
dirais qu'à un moment, avant de dire on va passer tout le monde à la voiture électrique, on arrête de faire plaisir à tout le monde et on relance notre système électrique correct.
Ouais.
L'hiver dernier, on nous expliquait quand même qu'il allait falloir baisser d'un degré tout le monde, sinon ça n'allait pas passer. Comment on recharge une voiture électrique?
Ouais,
Après,
sur la route.
on a eu le même phénomène à Los Angeles. Hein. Ils ont interdit de recharger les voitures électriques pendant 2 jours parce qu'il y avait trop de clim qui fonctionnaient. Eux, c'était l'inverse.
Bah, d'ailleurs, t'as vu ce qui a été fait dans certaines rues de Los Angeles? Ils ont repeint plein plein de routes en blanc
Oui.
pour réduire
La réverbération du soleil sur le
Oui,
noir
c'est
pour
ça.
essayer de baisser d'un ou deux degrés la température. Mais quand on en est à trop de clim, alors la climatisation aussi, grosse forme de pollution,
Bien sûr.
la climatisation, quand on est à dire interdiction de charger vos voitures électriques parce que sinon vous ne pourrez pas faire fonctionner vos clims, ça veut dire que même aux États-Unis, de l'autre côté, hein, et ils sont pas meilleurs que nous, hein, que l'Europe, hein, on a tous le même problème. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé. On ne peut pas dire qu'on va augmenter notre consommation d'électrique de 20% ou de 25% rapidement dans les 10 prochaines années, parce qu'on sait qu'en augmentant, on est de plus en plus nombreux. Les consommations n'ont pas baissé. Le pétrole, aujourd'hui, on a toujours une pente de consommation qui est supérieure d'année en année, alors qu'on a rajouté la voiture électrique, qu'on a rajouté l'hydrolienne, qu'on a rajouté. On aura toujours de la
L'hydrolienne? Ah
consommation. L'hydrolienne, ouais, ouais, c'est
L'éolienne
l'hydrolienne. L'éolienne et
et le solaire, et
l'eau est dans
l'hydraulique.
l'eau. Et dans l'eau, ça s'appelle.
Hydraulique. Ah, c'est hydraulique.
C'est hydraulique, t'es
Les
sûr?
barrages hydrauliques, ouais,
Ouais.
sûr.
Bon, pour les barrages, mais pour les éoliennes qui sont dans l'eau.
Ah, c'est pour ça que t'as dit hydrolienne.
Oui, je crois que
Ah,
c'est
je croyais que
hydrolienne.
tu me disais, je croyais que t'avais un peu.
Non, 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 on a en Bretagne, en France, on a la plus grande, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme, hydrolienne du monde,
Ok.
qui est au croisé de 3 fleuves, je ne sais plus où c'est. Il y a tellement de courant que l'éolienne, elle a un fonctionnement qui est hyper rentable.
C'est fou
Alors,
d'être sous l'eau.
on a le
Ok.
deuxième problème qui se passe, ça veut dire que dans la journée, cette éolienne, elle produit trop d'énergie perdue. Donc, qui part dans la nature parce que personne n'utilise. Et le soir, donc, ça veut dire que dans la journée, on pourra alimenter 50 villages,
Ouais.
50 villes peut-être. Et le soir, on peut en alimenter que 2, vu la consommation moyenne du français.
Ouais. Et en journée qui est
Et bien,
évidemment.
et aussi à cause de nos enfants, toutes ces consoles de jeux en permanence.
Ouais, ça doit être ça, ouais. Non, pour le coup, oui, enfin, là, il y a beaucoup de trucs. Enfin, est-ce que du coup, ça veut dire que cette énergie, si elle pouvait aller plus loin, ce serait peut-être dans les zones de travail où beaucoup de gens se regroupent, bah, les zones industrielles, typiquement, qui là, par contre,
Oui.
en journée, explosent et le soir, ne consomment rien. C'est l'inverse.
Bah, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir la stocker. Ce serait l'idéal.
Ah, bah, clairement, ouais.
Le problème, c'est que pour la stocker, aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée, c'est des batteries.
Et les batteries, à
Et on
faire.
en revient au même. C'est les Chinois qui ont le monopole.
Alors, j'ai une dernière question. Après, on passera à un petit jeu. On va voir si tu
D'accord.
t'y connais bien sur le marché de l'automobile après. Moi, je pense que oui, mais bon. Si tu devais conseiller une voiture pour 2 points, parce que là, je vais te citer plusieurs situations. Donc voilà, ça peut peut-être aider les gens qui vont écouter à dire, OK, j'ai ça, quelle voiture pourrait m'intéresser, enfin, avec le point de vue d'un professionnel. Voilà. Donc, la première question, c'est si tu devais conseiller une voiture pour quelqu'un qui roule beaucoup pour aller travailler. Là, t'as un peu répondu, du coup.
J'aurais tendance à dire un diesel parce que économiquement, ça va être bien. Ça permet de faire beaucoup de kilomètres. Après, il a des panneaux solaires sur sa maison et qu'il est capable de charger une voiture électrique avec de l'énergie verte, une voiture électrique.
D'accord. Est-ce que tu as des modèles précis ou pas?
Aujourd'hui, sur le marché, on a Tesla qui est, même si j'aime pas promouvoir une marque américaine, hein, pas du tout, mais pour le coup, ils ont une vingtaine d'années d'expérience. Ça reste un produit qui est très fiable. Il y a quasiment pas de panne aujourd'hui sur Tesla.
Il suffit de changer la batterie tous les 500
km. Oui, alors il y avait un record là aux États-Unis. Ça veut dire que le gars avait fait avec sa première batterie 400 000 km. Alors ça coûte 15 000 dollars pour changer les batteries sur une Tesla aux États-Unis. Mm-hmm. Chez nous, forcément, ça s'enflammerait un petit peu plus. Mais il avait fait 400 000 km avec sa première batterie. Il a changé ses deuxièmes batteries à 900 000 km et il a rechangé ses troisièmes batteries à 1 400 000 km. Donc, il a fait trois jeux de batteries, donc 45 000 euros d'investissement. Il a fait 1 400 000 km. Ça reste très, très rentable.
Ça fait plus de 10 ans de...
Les voitures électriques freinent tellement toutes seules que aujourd'hui, en pollution, plaquettes, disques, c'est 100 000 km minimum avec un jeu de plaquettes et de disques.
Alors qu'avec une voiture classique, c'est plutôt quoi, 20 000?
Non, plutôt entre 30, 40. Et pour les un peu sportifs, on va dire, et jusqu'à 60, 70 000 km pour les gens qui sont un peu plus doux.
OK.
Mais aujourd'hui, une voiture électrique, si vous êtes doux avec une voiture électrique, peut-être que vous les changerez à 200 000 km.
OK. Ah ouais, c'est, oui, vu que
ça freine tout seul. C'est ça. Ça freine tout seul.
Si tu devais conseiller une voiture pour quelqu'un qui part en vacances?
Ça dépend où il va. Un peu compliqué.
Pour moi, partir en vacances, c'est, on va dire, faire minimum en voiture 800 km. Voilà.
Alors, un diesel.
Toujours.
Un diesel ou un essence. Le problème de la voiture électrique, ça pourrait être un bon compromis si on n'aurait pas de soucis pour accéder à une borne et qu'on serait bien sur une recharge selon l'ampérage de la borne de 18 ou 20 minutes, 30 minutes. Mm-hmm. Parce que 800 km. Ça demande normalement à peu près 8 heures, 7 heures. Donc 7 heures, on estime qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Donc c'est 3 arrêts pour faire 800 km. 3 arrêts, si tu t'arrêtes 3 fois, tu t'arrêtes, tu bois un café. Pour les fumeurs, tu fumes une clope, tu te détends. Une petite demi-heure, ça suffit, tu recharges ta voiture, donc la voiture électrique est encore viable. Le problème, c'est que j'ai un copain qui a une Tesla et qui a voulu partir à Saint-Tropez.
Okay.
Quand il met sur son GPS Saint-Tropez, la Tesla, elle est hyper intelligente, elle calcule les arrêts, elle lui dit, là, tu vas t'arrêter là, 20 minutes, là, tu vas t'arrêter là, 35 minutes, et là, tu vas t'arrêter là, et je crois qu'il lui disait, dans 9 heures, t'es à Saint-Tropez.
Tu mets combien de temps en voiture thermique d'ici?
Ouais, peut-être 8 heures. Donc, le gain est pas, c'est jouable.
Ouais.
Le problème, c'est que quand il est parti avec sa Tesla pour aller à Saint-Tropez, il a mis 12h30. Pourquoi? Parce que des bornes en panne, parce que du monde à la borne, pas assez de bornes, enfin, voilà, très compliqué. Là, aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour opérer les bornes. Mm-hmm. Et bien, il y a des bornes qui n'existent même pas sur l'application, qui ont été retirées, qui avaient été installées il y a 10 ans. Il n'y a aujourd'hui aucun entretien sur les bornes, c'est une catastrophe.
Okay.
C'est un nouveau phénomène qu'on a maintenant, c'est qu'on a mis des bornes partout, mais qu'il n'y a pas les entretiens des bornes. Donc, t'as quand même aujourd'hui une chance sur deux d'avoir une borne qui ne fonctionne pas quand t'arrives.
Ah oui, tu penses que 50% quasiment des bornes ne marchent pas?
50% des bornes ne fonctionnent pas.
Ok, ah ouais.
Hormis, on va croire que je suis pour Tesla, mais hormis Tesla.
Qui continue, pour le coup, d'être
en train. Là, ils sont en train de développer, Tesla, des nouvelles bornes avec des kilowattheures de dingue pour charger en 12 minutes, 18 minutes leur voiture. Ça veut dire qu'ils ont déjà inondé le marché européens et notamment français de bornes Tesla. Et en plus, ils sont en train d'en remettre d'autres, mais encore plus puissantes pour pouvoir répondre à une demande de pouvoir recharger encore plus rapidement. Donc, là, je crois que la loi est passée que du coup, tout le monde va être obligé d'avoir la même prise.
Ouais.
Donc ça va faciliter, ça veut dire qu'on pourra se connecter à des bornes Tesla.
Ce qui va, ouais, carrément. Donc pour Tesla, ce sera peut-être un peu moins rentable et peut-être qu'on aura du coup un revirement de situation et qu'ils investiront un petit peu moins dans les bornes, ou alors peut-être qu'il y aura une collaboration avec...
Tesla refacture l'électricité, donc c'est, si celui-là qui aura les bornes performantes demain et qui fonctionnent, il gagnera de l'argent avec. Hein. C'est pas un mauvais business. Hein. Aujourd'hui, si tu mets une voiture électrique chez toi, il est même conseillé d'installer une borne de recharge pour avoir quelque chose d'assez puissant et de contrôler pour pas prendre le risque de faire un incendie. Ouais. Après, attention, il y a des Tesla qui ont brûlé dans les garages et il y a des gens qui ont perdu leur maison. Une voiture électrique, ça peut brûler aussi.
Oui, donc le risque. Ouais.
Et jamais charger une voiture électrique dans son garage, dehors.
Plutôt dehors, même s'il pleut. Alors là, c'est plus pour toi, en vrai. Si tu devais conseiller une voiture pour quelqu'un qui a un budget illimité.
Illimité.
Il peut acheter n'importe quelle voiture.
Oh, j'aime bien la Porsche électrique.
C'est vrai.
Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils viennent de sortir le nouveau modèle.
Je peux chercher le nom si tu veux.
C'est très très sympa. Donc, une Porsche électrique, ça peut être sympa. Une belle Ferrari avec un bon moteur thermique, un bon V8. Hein. Mm-hmm. Ça peut être très sympa aussi. Enfin, budget limité. Il y a des gros 4x4, il y a des gros 4x4 qui sont aussi extraordinaires. Il y a le Ford, le F350, qui est une machine de guerre.
Ouais.
Qui permet d'aller n'importe où.
Et c'est marrant parce que t'as cité deux voitures qui n'ont pas du tout la même utilité. T'as cité, Lamborghini, t'as dit Ferrari, pardon.
Ferrari.
Grosse voiture qui va super vite, etc. F350, gros truc qui peut aller partout, qui peut rouler n'importe où.
Et puis, j'ai cité une voiture électrique aussi, parce que la dernière Porsche, là, la Macan, non?
Alors, il y a la Macan électrique, je viens de regarder. Donc, il y a la Macan de base. Et la Taycan, qui est électrique.
Je crois que c'est la Taycan que je te parle.
Qui est, je pense, elle est plus jolie. Elle est un peu sportive.
Oui, c'est la sportive de chez, et là, ils viennent de sortir un nouveau modèle avec plus de 1000 chevaux.
Ouais. OK.
En donc la dernière. Alors, c'est pareil, hein, c'est des trucs de cochon parce que beaucoup de batteries, il faut alimenter tout le monde.
Oui.
C'est pas très écolo, mais
comme un V12 quoi.
Mais très sympa quoi.
Très sympa. C'est l'objectif aussi. C'est bon, j'ai pas fait.
L'automobile à la base, c'est un plaisir. C'était un plaisir. On a nos collectionneurs, on aime les voitures, on aime. Moi, je suis aussi motard. On aime les belles motos. Enfin. Après, c'est d'essayer de faire tout le monde un petit geste pour la planète quand on peut, pas rouler bêtement, essayer de gérer ses déplacements. Après, il faut que ça reste un plaisir. L'automobile, ça a toujours été un plaisir depuis la création de l'automobile.
Ouais.
Il faut que ça reste un plaisir. Et le plaisir passe par des trucs un peu hors normes, des voitures un peu sympas, pas que des Zoé, quoi.
Ouais, pas que des Zoé, exactement. Et si tu devais conseiller une voiture pour quelqu'un qui a 1 500 € de budget?
Alors, c'est très, très compliqué aujourd'hui parce que 1 500 € de budget, il ne va pas trouver chez un professionnel. Hein. Mm-hmm. Un professionnel digne de ce nom qui se respecte et qui assume le protocole de garantie, de bien réviser la voiture, de faire un vrai contrôle technique, de mettre la voiture aux normes. Alors, souvent, quand on a un budget de 1 500 €, c'est qu'on est jeune permis.
Ouais.
Hein. Du coup, attention. Parce que le problème, c'est que c'est déjà des jeunes conducteurs. Peu d'expérience. C'est pas la peine de les mettre en danger avec des voitures qui freinent pas, avec des pneus qui sont au bout. Mon premier conseil, si vous achetez une voiture à 1 500 € et qu'elle a un contrôle technique qui est vierge, fuyez. C'est pas possible.
OK. Hein?
Donc, ou vous refaites un contrôle technique. Mais bon, de toute façon, le margoulin qui vous a vendu une voiture à 1 500 € en vous disant qu'elle était nickel, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a une telle inflation sur les pièces et tout que n'importe quelle voiture que le même s'il la récupère, qu'il la remet en état, ça coûte plus que ça aujourd'hui.
Donc, en fait, pour 1 500 €, tu dirais à quelqu'un d'attendre d'avoir plus d'argent.
Pour moi, je dirais qu'il n'y a rien. Et je dirais qu'en plus, mettre 1 500 € dans une voiture aujourd'hui et que ça vous coûte à peu près 2 000 € de réparation, 3 000 € de réparation dans les 2 ans, Acheter tout de suite une voiture à 4 000 à 5 000 € avec de l'ABS, de l'airbag, une voiture qui vous mette en sécurité.
Et puis qui
vous coûtera beaucoup moins cher en réparation, parce qu'une voiture à 1 500 €, malheureusement, vous allez avoir peut-être l'embrayage, peut-être une grosse panne.
C'est ça. C'est des voitures à très, très fort kilométrage.
Ouais, je pense que aujourd'hui, acheter une voiture à 1 500 €, à part si c'est la voiture de votre tante qu'elle vous cède, qui vaut 4 000 et elle vous la donne à 1 500 €, hormis ces opérations-là, il ne faut pas acheter une voiture à 1 500 €. Et ce, vous n'aurez normalement pas chez un professionnel, donc vous allez finir sur le bon coin.
Ouais.
Et le marché de l'occasion aujourd'hui, il est un peu sans scrupule. Donc, vous avez toutes les chances de vous faire arnaquer.
Ok. Et maintenant, si tu devais conseiller une voiture, c'est un peu le même type de question pour quelqu'un qui achète sa première voiture. Donc là, on ne parle pas de 1 500 € de budget. Évidemment, vu que c'est sa première voiture, je pense rester dans un budget raisonnable, on va dire, si on prend la majorité des personnes. Mais à quelle voiture tu penserais, par exemple?
Alors, clairement, Lucas, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas mettre 10 ou 12 000 ou 15 000 euros dans sa première voiture.
C'est une erreur.
C'est une erreur parce qu'on va apprendre à conduire avec. Donc, on le voit. Je vois des clients qui achètent des voitures neuves à leurs enfants parce qu'ils ont les moyens. Je vois des clients qui achètent des voitures de très peu de kilomètres, de très bonnes occasions.
Et tu les vois revenir?
Alors, il y a deux phénomènes qui sont catastrophiques. C'est l'assurance.
Oui.
L'assurance pour une voiture neuve, pour un jeune permis, on va parler de entre 2000 et 3000 euros l'année.
C'est énorme. Ouais, c'est totalement.
C'est énorme. Et en plus, le gamin, il faut qu'il apprenne. Donc, il va faire une petite touchette par là, un petit truc par là, une bêtise. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu de l'apprentissage. Aujourd'hui, je pense que le bon budget pour une voiture, pour un jeune qui démarre, c'est entre 4 et 6 000 euros. C'est un truc qui va pas être trop kilométré, qui va être plutôt avec les technologies d'aujourd'hui, de sécurité, un minimum d'airbag, d'ABS.
Un peu de confort, voilà.
Un peu de confort, et une voiture qui va être pas trop malade, qui va l'emmener au gamin. Parce que moi, je suis père de 3 enfants. J'aurais tendance à équiper mes enfants de voitures. D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai équipé un de mes fils d'une voiture plutôt entre 6 et 8 000, j'ai eu la chance. Mais du coup, l'idée, c'est aussi qu'il m'appelle pas à 2 heures du matin parce qu'il est en panne.
Ouais.
Je veux qu'il, quand il part du domicile pour aller chez des copains ou chez sa copine, je veux qu'il puisse rentrer en toute sécurité. Et j'ai pas envie qu'à 2 heures du matin, il m'appelle parce qu'il est tombé en panne au milieu de l'autoroute et qu'il se mette en danger. Donc, je pense que quand on est des parents raisonnables, tant pis. Mais une voiture entre 4 et 6 000, c'est le minimum aujourd'hui pour avoir un truc correct.
OK.
Et on l'assure tout risque. Parce que votre enfant, il n'est pas à l'abri de glisser. S'il tape à l'arrière d'une voiture, vous l'avez mis au tiers, et qu'il y a pour 3 ou 4 000 euros de réparation de la voiture, c'est fini, c'est poubelle. Donc, quand on est capable d'acheter une voiture à 4-6 000 euros...
On est capable d'assurer tout risque.
On assure tout risque. On ne met pas au tiers. Oui, ça va coûter le double tout risque, mais c'est des enfants, ils apprennent. Je le vois beaucoup. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à qui j'ai vendu des voitures, où les parents ont acheté des voitures. Pas que chez moi, hein, ailleurs, où on les revoit dans les 6 mois parce qu'ils ont eu un accident. Ils ont oublié un stop. J'ai une gamine, elle a oublié un stop. La voiture pulvérisée.
Ah bah ouais.
Alors, voiture moderne, une voiture dans les 4-5 000 que ses parents avaient acheté, donc la gamine n'a rien eu. Super. Bien sécurité, les airbags ont fait leur job et tout. Par contre, au tiers, les parents avaient fait un crédit de 3 ans pour la voiture de la gamine. Et du coup, là, au tiers, elle est en tort. Pas de remboursement de voiture. Voiture, épave, poubelle. Les parents, 3 ans de crédit, la gamine n'a plus de bagnole. Ouais. Donc, quand on fait un crédit pour acheter une voiture à son gamin ou sa gamine,
on l'assure tout risque.
On la met au risque.
Ok. Et enfin, c'est une note un peu plus positive. Si tu devais conseiller une voiture pour quelqu'un qui veut vivre dedans.
Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de systèmes aujourd'hui. Hein.
Mm-hmm.
Ça va du break. Okay. Je vois des jeunes, des clients qui partent faire le tour de la Norvège, de la Suède, avec des breaks. Ils couchent les banquettes, ça c'est pour les moins fortunés, et puis ils dorment derrière avec un matelas. Après, ceux qui ont un peu plus de sous, ils mettent des barres de toit, ils se mettent une tente de toit. Aujourd'hui, il y a des très bonnes tentes de toit, le marché il est très très large, hein. Il y a des tentes ça va de 600 euros une tente de toit à 4 ou 5 000 euros. Pour les plus chers, ça c'est assez fun aussi, ça permet de dormir. Si vous voulez vivre dans votre voiture, bon, il faut minimum un van, il faut minimum un peu de confort. Alors là, l'idéal c'est de racheter un vieux camping-car ou...
Quitte à le remettre en état soi-même pour...
Oui, après un peu bricoleur. Après, quand on décide de vivre dans son véhicule, on a quand même des besoins primaires.
C'est ça.
Il faut pouvoir se laver, il faut pouvoir avoir un endroit pour aller aux toilettes, et puis il faut pouvoir avoir de l'eau.
Donc, ouais, de l'eau cuisinée.
Ouais, donc il faut. Idéalement, on veut vivre dans un véhicule à l'année. C'est vrai que ça coûte moins cher. Quoique aujourd'hui, il faut essayer de trouver le bon parking gratuit. Mais du coup, il faut un minimum un vieux camping-car.
Ouais. Ok. Donc là, on a fini avec toutes les questions. Mais comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas fini. J'ai un petit jeu pour toi. C'est très très simple. C'est vraiment très simple. C'est juste pour voir un peu si ce que disent les chiffres en France et ce que tu as vu, c'est à peu près la même chose. Je vais te demander quels sont le top 10 des voitures les plus vendues en France en 2023. Donc c'est par modèle, hein, pas par marque. Tu me dis le modèle, je te dis à quelle place.
Ah, alors, moi, j'aurais tendance à dire que je crois que la Clio est toujours devant.
La Clio première, 97 000 immatriculations.
Ouais, Clio, alors toujours première et depuis longtemps. Elle est suivie de la 208, je crois.
La 208,
Hein?
exactement, 86 000 immatriculations.
Derrière, nous avons la 2008 qui est quatrième, je crois.
Non, elle n'est pas. Alors, la 2008 y est, elle est cinquième.
Ah, c'est le 5008 ou le 3008, pardon. C'est le SUV, non? Okay,
Aucun des
on...
deux. Non, il n'y en a aucun des deux dans le top 10. La troisième, c'est. T'as raison, c'est un SUV. C'est pas
C'est
un.
le RAV4 de chez Toyota,
Non.
non
Non,
plus.
c'est pas. Non,
Ah.
la petite enflamme. C'est. Non, pour l'instant, je te donne pas d'indice. Tu peux encore dire des trucs. Il y a plein de voitures encore. Donc, pour l'instant, t'as Peugeot 2008, Peugeot 208 et Clio. Donc, 1, 2 et 5.
1, 2 et 5. Le troisième, c'est bien un SUV, on est d'accord.
C'est
Hein.
bien SUV.
C'est un SUV français?
Si, français. Si, on fait français. Si, français. Si, français.
C'est pas le Captur de chez Renault. Ah non,
Le
pardon, mais
Captur y
non.
est. Le Captur
Mais
y est, mais
je suis
sixième.
désolé. C'est pas le Duster.
C'est le Duster,
Oui,
exact. Non,
pardon,
non,
le
non,
Duster.
c'est pas le Duster, j'ai dit. Le Duster y est aussi, il est neuvième. Le Captur que tu m'as cité, il est sixième.
Oui.
Mais il y a, exact, donc c'était Dacia, ouais. Mais il y a une deuxième Dacia.
La Dacia Sandero.
C'est ça, c'est la Dacia Sandero
Oui.
qui est troisième avec 69 000 immatriculations. Je reprends vite fait les imats pour avoir des chiffres concrets. La Peugeot 2008, on est à 49 000 immatriculations. La Captur, 47 000. Et la Dacia Duster, 32 000. Voilà. Donc là, déjà, t'as fait à peu près les principaux, mais il t'en reste encore quelques-uns plutôt
Oui,
faciles.
après, je pense que derrière, on a la Yaris aussi qui doit traîner dans le coin.
Bah, aucune Toyota. Ah, là, t'es, là, c'est un
Alors,
petit coup.
c'est que, tu vois, pour le plus gros constructeur du monde et le plus fiable aujourd'hui sur le marché, le Toyota, en France, on est très français quand même. On sait bien, on protège nos
Ah,
constructeurs.
bah, c'est très vrai, c'est très vrai.
Alors moi j'aime beaucoup Dacia aujourd'hui. Dacia a fait un bond en avant en fiabilité et en qualité de véhicule. J'aime beaucoup beaucoup Dacia.
Ils ont moins l'image cheap qu'ils avaient avant.
Ah oui, carrément. Le dernier Duster, il est juste extraordinaire. Et là, il y a un 7 places qui est en préparation pour 2025. Il va tout déchirer. D'ailleurs, je vais le précommander dès qu'il arrive.
Ah ouais.
Ouais, il est vraiment magnifique.
Ok.
Alors qu'est-ce qu'il pourrait, bah, le 3008, le 5008,
Aucun des deux.
l'Espace, le Scénic.
Aucun de ces véhicules n'ont été dans les plus vendus. Alors, ça m'a surpris aussi. Mais il y a un véhicule encore pour moi qui est évident que t'as pas cité.
L'Espace,
Non,
non?
c'est une voiture, on va dire, de la même trempe que la Clio et que la 208. Mais de leur concurrent.
Ah, la C3.
Exactement, la C3 qui est quatrième avec 59 000
Oui,
immatriculations.
alors j'aime pas la nouvelle C3, c'est pour ça que je l'ai
C'est
pas
vrai?
citée. Je trouve que Citroën, sur ces dernières années, a un design qui est assez particulier. Peugeot, aujourd'hui, Peugeot a des belles voitures. Peugeot a des très belles voitures. Dacia, avec son nouveau logo et tout, a des belles voitures. Renault, alors Renault a pas des belles voitures, mais par contre, Renault vient de sortir une R5
La R5
électrique
électrique, oh là
qui est
là,
juste
elle
extraordinaire.
est trop
Et
belle.
pour ma génération, moi j'ai connu, ma femme, elle avait une Super 5.
Ok, ouais, l'ancêtre de la R5, quoi.
Elle a, ouais, donc la R5. Et du coup, je trouve ça extraordinaire de ressortir la R5, mais j'espère pour elle qu'elle aura le succès qu'ont eu les Fiat 500 quand elles ont été ressorties au goût du jour. Parce que la Fiat 500 avait 50 ans.
Putain, je n'avais trop pas
La
remarqué.
Mini, a 50 ans. Et on l'a ressortie. Et aujourd'hui, ça a un carton. Donc j'espère que la Super 5 aura le carton de ses homologues des autres marques.
Voilà, dis-toi, je me suis bien renseigné dernièrement parce que pour mon stage, j'ai dû à un moment faire face à une R5 et je me suis beaucoup renseigné sur les options et il y aura l'IA dedans. Tu pourras demander des trucs à
Oui.
l'IA et c'est, enfin déjà, je trouve ça ouf qu'on a, enfin c'est un nouveau bond
Oui.
technologique quoi.
Ouais. On passe encore une nouvelle étape, je suis d'accord. Ils vont même sortir cette R5. Elle va être commercialisée chez Alpine aussi.
Bah
Avec un
ouais.
châssis différent, des ailes larges, un peu comme on avait à l'époque la R5. Et pour les plus anciens, ils comprendront la Turbo 2. Qui était une grosse R5 avec des ailes larges. Et ben là, ils vont avoir une R5 chez Alpine électrique. avec des grosses ailes et tout.
Ah ouais. Ok.
Donc ouais, là, ouais, ça va être très fun.
Le modèle sportif un peu.
De... Alors ouais, si je suis un peu riche d'ici 2-3 ans, j'achèterai bien la R5 Alpine.
Je vous invite vraiment à aller voir le design de la R5 et Renault a fait un très très bon site. Là-dessus, ils ont fait une page entière qui est super bien faite pour montrer justement la 5 dans tous ses angles. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Mais attends, on va revenir comme petit top. Donc, je le reprends vite fait pour te dire ce qui te manque. T'as la Clio en premier, 208 deuxième, Sandero troisième, C3 quatrième, Peugeot 2008 cinquième. Le sixième, tu me l'as cité, c'est le Captur. Il te manque le septième, le huitième, la Dacia Duster en neuvième que t'as eu et la dixième. Il y a une voiture française encore. Après, c'est deux voitures étrangères. Je vais commencer à te donner des indices. Si tu veux.
Ça devient difficile. La dixième, tu pourrais me donner au moins le constructeur.
Non, si je te donne c'est la voiture phare du constructeur. C'est un constructeur, c'est pas allemand. C'est pas allemand, c'est européen, mais c'est pas allemand.
C'est européen, mais c'est pas allemand.
T'en as même parlé, en fait. Là, il y a très peu de temps. Il y a genre moins de 5 minutes, maximum. Ah, c'est dur.
Bah,
c'est que si je te dis le pays d'où ça vient.
Volvo ?
Non, dommage. C'est vrai que ça aurait fait de Volvo parce que voilà, Volvo est suédois, mais non. C'est un autre pays. Il fait plus chaud, bien plus chaud.
Je ne savais pas qu'on avait des voitures qui étaient quoi. Ah, italien,
pardon. Ouais.
Italien, Fiat ?
Fiat
500, du coup ?
Forcément, voilà. Fiat 500. Fiat 510e, 31 973 immatriculations précisément. Donc, il te reste encore une voiture française.
La Mini, alors elle doit être dans ce classement, non,
non.
Peut-être.
Non, la Mini n'est pas là. Il n'y a pas de Mini.
Série 1 de chez BMW ?
Non, pas de BMW. Il n'y a aucune voiture allemande. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt surprenant.
Bizarre,
mais...
ouais. L'Audi, non. Non, pas d'Audi A3, de Q3. Mercedes,
non. Non, la dernière voiture, je te donnerai la dernière, on verra après. Mais là, déjà, il faut que tu me trouves la voiture française quand même. Modèle très connu. Sûrement un des 5 modèles les plus connus de cette marque,
Kangoo,
qui est une marque française.
Kangoo ?
Non, c'est pas le
Kangoo. Le Berlingo ?
C'est une voiture ?
C'est le Berlingo ?
Non. Non, c'est pas en voiture utilitaire non plus. C'est une voiture plus grande que la 208. Mais dans le même style.
Bah, c'est la 2008.
Non.
Mais je l'ai cité. 2008, j'ai 308.
308, exactement.
Ah oui, la 308. Oui, c'est vrai. En plus, le nouveau modèle est sympa.
45 000 immatriculations environ. Et là, il te reste une voiture qui est un peu... C'est bien parce que ça clôt bien le truc. On en a beaucoup parlé. On avait l'impression que tu étais sponsorisé par cette marque aujourd'hui. Et ils ont un modèle à eux dans ce top.
La Tesla,
exactement. Mais
donc, on a quand même dans les 10 premières voitures vendues en France, on a une voiture électrique.
C'est la 8e, mais tu ne m'as pas dit encore le modèle.
Bah, c'est la Model A.
Non.
Model S, pardon. Alors, non. Je ne suis pas très fort en modèle. C'est l'Y, non.
Le modèle S, le modèle 3.
Ah, c'est le modèle 3, pardon.
X et le modèle Y.
C'est le modèle 3.
Non. Alors moi aussi, je pensais, parce que c'est la moins chère, donc la modèle 3, mais c'est pas elle.
Bah, je sais. X.
Non.
Y.
Ouais, Y. Bah, c'est la... Tu sais, c'est la...
C'est une espèce de monospace avec les portes qui s'ouvrent en papillon.
Ouais, exactement.
D'accord.
Ça.
D'accord. Ouais. Je savais même pas.
C'est pas
dans
la
les 10 plus grosses ventes de voitures en France.
C'est devant, donc avec 37 000 immatriculations.
Bon, 37 000 immatriculations.
C'est 3 fois moins que la Clio. Faut quand même remettre les trucs.
On a quand même, moi qui donnais des chiffres en disant que le marché électrique était en baisse, on a quand même, dans les 10 premières voitures vendues en France, on a une voiture électrique quand même.
Mais en vrai, c'est, par rapport au stats entre guillemets, que tu nous as donné tout à l'heure, c'est pas déconnant. Tu nous dis que dernier trimestre 2023, on est à 25% de voitures électriques. Ouais. Donc ça veut dire un quart des voitures. Donc qu'il y ait une voiture électrique dans le top 10, ce qui me choque, c'est que ce soit la Tesla. Et pas la Zoé, en fait.
Ouais. Alors, oui. C'est bon signe parce que c'est une voiture à plus de 100 000 euros, je crois.
La modèle, je peux regarder maintenant.
Ça veut dire qu'il reste encore un peu d'argent dans ce pays.
C'est que des gens ont toujours les moyens. Et 37 000 personnes ont acheté donc une modèle Y, ce qui est énorme. Donc, ouais, c'est bien le SUV, du coup. Et est-ce que j'ai le prix en France neuf? Pas du tout, c'est pas du tout 100 000 euros. Ça va. Mais c'est quand même un bon prix. Mais c'est 45 000 euros.
Ah, oh bah oui.
Bon, ça s'achète, en fait.
C'est à peu près abordable, aujourd'hui. La Clio, la R5 qu'on parle depuis tout à l'heure.
Elle est à 30 000.
Alors, normalement, ils avaient prévu qu'elle sorte à moins de 25 000 euros. Mais il n'y a pas encore les tarifs, je pense. Mais l'idée, c'était de faire une voiture à moins de 25 000 euros. Et pour une voiture qui aura pour le plus haut de gamme, qui aura l'IA, qui tient à cœur.
Et 500 km d'autonomie, je crois. Et
400 km d'autonomie, je crois.
C'est, alors, il y a trois modèles.
300 et 400, je crois.
Non, c'est 400 et 500.
T'es sûr?
Je suis quasiment sûr.
Ah oui, ça. Tu bosses un peu dessus. C'est ça que tu me disais au début de notre truc, que tu bossais un peu dessus en ce moment.
C'est ça.
Donc, du coup, elle est 500. Et ben, celle-là, par contre, elle va être dans les 35 000 euros.
Ouais, c'est sûr. C'est le modèle 1 qui va être moins cher.
Ouais.
Comme le modèle 3 de Tesla, qui n'est pas le plus vendu. Ok. Donc, ça m'a surpris. Et ben, sur ce, on a fini. J'ai plus de questions. C'était super intéressant. On a évoqué plein de côtés différents. On a vu plein de choses différentes. Donc voilà, c'était hyper cool. Ce qui est bien en fait, c'est que le sujet est tellement large qu'on peut le prendre à peu près dans tous les sens. Et il y a, enfin, on n'a même pas parlé de moto, on n'a pas parlé du contrôle technique en France. On aurait pu parler d'encore plein de choses. Donc peut-être un jour, peut-être en refaire un sur d'autres sujets dans l'automobile parce que c'est très large. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin?
Bah non, merci Lucas. J'espère que j'aurai à peu près répondu à tes attentes.
Ouais.
Attention, j'ai donné plein de chiffres, mais comme ça varie d'une année à l'autre, faudra pas m'entendre à rigueur si j'ai dit des bêtises. Enfin, entre 1,1 et 1,2 milliards de véhicules dans le monde, ça j'en suis quasiment sûr, ça change pas comme ça, hein. Mais voilà, c'était hyper intéressant. On aura parlé un peu de tout et on aurait pu aussi parler du contrôle technique avec la moto qui arrive ce mois-ci.
Ouais, ce mois-ci.
Ce mois-ci, la moto et la voiture sans permis aussi, qui rentrent dans le giron du contrôle technique obligatoire. Et là, il faut savoir que la France, pour une fois, a repoussé l'échéance autant qu'elle a pu. Mais que c'est une obligation européenne. Une fois, la France n'était pas les premiers à faire le truc. C'est juste parce que on est imposé par l'Europe. Le contrôle technique moto, ça fait 2-3 ans qu'on doit le mettre en place parce qu'on est poussé par l'Europe.
Okay.
Et du coup, la voiture sans permis aussi.
Ok, bah voilà, bah donc.
Bah merci en tout cas, Lucas.
Bah merci à toi, c'était super cool. Donc vous venez de valider un nouveau checkpoint et on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir.
Au revoir.